Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Donald Trump persiste et signe. Le président américain justifie la séparation des familles de migrants arrêtés à la frontière mexicaine, malgré les nombreuses critiques jusque dans son propre camp. Dans ce journal, la correspondance de Pauline Simonet à Washington. Emmanuel Macron et Angela Merkel affichent leur entente à Berlin. Le couple franco-allemand veut mettre en place un budget de la zone euro. Sur la question migratoire, le président français et la chancelière allemande proposent de renvoyer les clandestins dans le premier pays d'entrée en Europe. Les explications de Cyril Sauvageau. Des unions syndicales à la SNCF, l'UNSA quittera la grève à la fin du mois alors que la CGT veut la poursuivre cet été. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. Invité de ce journal, Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Nous évoquerons avec elle la loi Pacte à l'heure où la croissance française donne des signes de faiblesse. Jusqu'où ira Donald Trump dans le durcissement de sa politique migratoire? Le président américain a une nouvelle fois justifié ce soir la séparation des familles de migrants, car pour lui, les parents entrés illégalement aux États-Unis doivent être poursuivis, ce qui obligerait à les séparer de leurs enfants. Si on n'a pas de frontières, on n'a pas de pays, avait martelé Donald Trump ce matin sur Twitter. Une façon pour lui de répondre à l'émotion suscitée par ces images d'enfants en pleurs privés de leurs parents à la frontière mexicaine. Pauline Simonet nous appelle de Washington.
C'est la seule option efficace pour lutter contre l'immigration clandestine. Donald Trump reste ferme et réaffirme sa position. Nous devons inculper les parents qui entrent illégalement sur notre territoire. En conséquence, il faut séparer les enfants, a déclaré le président, défendant une nouvelle fois sa politique très controversée de tolérance zéro. Avec un vocabulaire choisi, nous ne voulons pas que les gens se déversent dans notre pays. Nous voulons une immigration au mérite. Donald Trump reste sourd aux critiques et aux tollés suscités par les images et les enregistrements d'enfants en pleurs diffusés par les médias. Selon les chiffres officiels, en moins de 2 mois, 2000 enfants ont été séparés de leurs parents. Une situation atroce et cruelle décrite par les ONG et parlementaires qui ont visité les centres pour mineurs. Le malaise s'exprime jusque dans les rangs du Parti républicain. Plusieurs figures, dont le chef du parti au Sénat et à la Chambre, ont promis de légiférer pour interdire ces pratiques. Des pratiques qualifiées d'immorales par Laura Bush, la femme de l'ancien président George Bush. Un message retweeté par l'ex-première dame Michelle Obama avec ce commentaire « La vérité dépasse les partis ». Mais Donald Trump est inflexible, porté par des sondages qui montrent que son électorat est favorable à sa politique. Les discussions s'annoncent houleuses au Congrès où un texte sur l'immigration doit être discuté en fin de semaine.
Pauline Simonet, correspondante aux États-Unis. Le défi migratoire qui est aussi au cœur de la construction européenne, mis à mal par la montée des populismes hostiles à l'immigration massive. Les populistes qui rétrécissent la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Le président français était à Berlin aujourd'hui chez la chancelière. Alors bien sûr, les deux leaders ont affiché leur entente sur les questions économiques et migratoires. Il reste que le couple franco-allemand aura sans doute du mal à imposer ses solutions aux autres États membres de l'UE lors du prochain Conseil européen les 28 et 29 juin. On retrouve à Berlin notre correspondant en Allemagne, Cyril Sauvageau.
Une Europe plus souveraine et plus unie, ce sont les deux axes de cette feuille de route franco-allemande que Emmanuel Macron et Angela Merkel vont porter au prochain sommet européen. Souveraineté et unité sur deux grands dossiers, la réforme de la zone euro et la question migratoire. Le chef de l'État a obtenu de la chancelière la création d'un budget de la zone euro à partir de 2021. Objectif, renforcer la stabilité d'une zone euro encore trop fragile. Sur les migrants ensuite, dans une Europe déchirée, les deux dirigeants plaident pour des solutions concrètes, renforcer de Frontex, l'agence de contrôle des frontières extérieures de l'Union, travaille avec les pays de départ des migrants et le couple franco-allemand garde aussi l'espoir de trouver un compromis avec les 28 sur la prise en charge des migrants dans leur pays d'arrivée en Europe. Ce sera le plus difficile à négocier avec des pays comme l'Italie et c'est un sujet crucial pour Angela Merkel en difficulté chez elle et qui est dans l'obligation d'obtenir un résultat au Conseil européen.
Cyril Sauvageau, merci. En France, la grève à la SNCF va-t-elle survivre à l'été? Une chose est sûre ce soir, l'unité syndicale n'est plus de mise. L'UNSA quittera le mouvement le 28 juin prochain, terme initialement prévu pour le conflit à épisodes lancé le 3 avril dernier. Hier, le taux de grévistes à la SNCF avait atteint son plus bas niveau avec 10,8% selon la direction. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
L'UNSA quitte la grève alors que la CGT, elle, veut la poursuivre en juillet.
Oui, pour l'UNSA, pas question de poursuivre la grève cet été, Roger Dillemsegger, son secrétaire général, entend surtout peser sur la négociation de la future convention collective, mais n'exclut pas des actions ponctuelles à la rentrée.
Nous, on prend nos responsabilités, on annonce clairement qu'on sera dans l'action jusqu'au 28 et on ne sera pas en grève début juillet. Ce qu'on dit également, c'est qu'on va continuer à peser sur les négociations à venir. Les négociations à venir qui vont se dérouler maintenant sur la part conventionnelle dans le cadre des travaux de la convention collective au niveau de l'UTP. Nous, on pèsera sur cette négociation. À date, on attend le calendrier de l'UTP qui aujourd'hui n'est pas fixé.
Quant à la CGT, elle appelle à la poursuite de la grève au-delà du 28 juin, les 6 et 7 juillet, week-end de grand départ en vacances. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots.
Le 6 et 7 est toujours d'actualité. Nous considérons qu'il faut préparer d'ores et déjà les dates, et notamment parce que la loi sur le service minimum nous impose de déclarer une grève au moins 18 jours à l'avance. Donc nous ne pouvons pas attendre le 28, nous proposerons des dates, et les organisations syndicales qui souhaiteront s'y joindront.
Alors peut-être que la CFDT pourrait s'y joindre, elle préfère d'abord attendre un geste fort de la SNCF et du patronat, l'UTP, dans les prochains jours, avant le 28 juin, comme l'explique Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
La SNCF a son niveau de responsabilité et elle doit, dans ce cadre-là, s'engager, dans le cadre de son agenda social, sur des mesures précises, comme on a réussi à le faire et l'obtenir avec l'UTP.
Enfin, Sud n'exclut pas de mener des actions ponctuelles surprises à la rentrée, car la grève a fortement pesé sur les salaires. Rappelons que les cheminots grévistes ont perdu entre un salaire et un salaire et demi.
Hakim Kasmi, merci. La croissance française donne des signes de faiblesse. Selon les dernières prévisions de l'INSEE, l'activité économique ralentit et la France ne devrait pas retrouver en 2018 les bons résultats de l'an dernier. Le contexte international explique en grande partie ce constat mitigé de l'INSEE, Isabelle Raymond.
Le ciel se voile en Europe. C'est la métaphore utilisée par l'INSEE pour décrire le contexte économique global cette année, avec des tensions protectionnistes aux États-Unis, un prix du pétrole qui s'envole. La croissance sera moins forte en France en 2018 qu'en 2017, 1,7% cette année contre 2-3 l'an dernier, selon Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.
Concernant la France, notre prévision pour 2018, c'est une croissance un cran en dessous de 2017, mais une croissance néanmoins relativement équilibrée, avec des contributions de la consommation des ménages, de l'investissement des entreprises, également des exportations.
Selon les prévisions de l'INSEE, 183 000 postes vont être créés cette année. C'est 157 000 de moins qu'en 2017, avec un net ralentissement notamment dans le domaine de l'intérim. Mais le chômage va continuer de baisser. L'inversion de la courbe ne se dément pas. Le taux de chômage devrait ainsi passer sous la barre des 9% d'ici la fin de l'année.
Isabelle Raymond, merci. Invité de ce journal, Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Alors, on va évoquer avec vous la loi Pacte présentée hier en Conseil des ministres, ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Mais un mot peut-être tout d'abord sur ce ralentissement de la croissance évoqué par l'INSEE. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Alors, nous voyons en effet un léger tassement au début de l'année, après une année 2017 extrêmement dynamique, mais cette croissance, elle est solide, elle s'appuie sur une confiance des ménages qui est bonne et donc nous restons confiants sur le reste de l'année 2018.
Venons-en maintenant à cette fameuse loi Pacte présentée hier en Conseil des ministres. Est-ce que l'on peut parler d'un texte d'inspiration libérale dans la mesure où il veut d'abord simplifier la vie des entreprises ?
La loi Pacte, c'est avant tout un texte équilibré, puisqu'il s'agit d'abord de libérer les énergies pour une croissance plus riche en emplois, de catalyser les flux financiers vers l'innovation et vers l'investissement productif, mais aussi de faire en sorte que les fruits de la croissance profitent à tous. Et donc, il s'agit d'un texte qui concerne aussi les salariés et l'ensemble des Français.
Vous assumez cette étiquette de loi libérale ?
Je pense encore une fois qu'il s'agit d'un texte équilibré qui montre que le gouvernement fait attention à prendre en compte à la fois l'aspect de libération de l'économie, du modèle économique, mais aussi l'aspect de distribution des fruits de cette croissance dans l'économie.
Alors, simplifier la vie des entreprises, cela passe notamment par la suppression des seuils au-delà desquels les entreprises ont des obligations fiscales ou sociales. Il n'en reste plus que 3 dans la loi Pacte. Pourquoi supprimer des obligations pour les entreprises de plus de 20 salariés, par exemple ?
Il n'y a pas de suppression d'obligations, il y a un phasage des obligations qui est clarifié, qui est atténué aussi pour que les entreprises soient moins freinées dans leur développement. Parce que le passage de ces seuils, c'est un véritable obstacle pour les chefs d'entreprise qui se voient imposer tout d'un coup des obligations multiples et surtout à des moments de la vie de l'entreprise très divers, puisqu'on a des seuils à 9, 10, 11, 15, 20, 25, 50 salariés, donc beaucoup de seuils différents, quatre façons différentes de les calculer. Donc la clarification et le fait d'atténuer ces seuils, de donner le temps aux entreprises pour les appliquer, ça nous semble clé pour aider les PME à grandir.
Mais ces seuils correspondent tout de même à des obligations fiscales et sociales. On peut considérer que c'est important pour la vie de l'entreprise de respecter ces obligations.
Mais l'entreprise respectera ses obligations. Elle aura simplement davantage de temps pour s'y préparer.
Mais ce sera un dispositif contraignant pour les entreprises avec cette nouvelle grille de seuil.
Oui, les obligations ne disparaissent pas, elles sont simplement échelonnées de façon différente. Et surtout, l'entreprise, lorsqu'elle passe un seuil, a 5 ans. Donc il faut qu'elle ait passé un seuil d'effectif pendant 5 années consécutives pour qu'elle doive se mettre en règle avec le seuil.
Delphine Génie-Stéphane, est-ce qu'il y a de nouvelles contraintes pour les entreprises avec cette loi ?
L'objectif, c'est de ne pas mettre de nouvelles contraintes aux entreprises, mais de leur donner des opportunités.
Il y a tout de même cet objet social et environnemental de l'entreprise qui aura, lui, un caractère contraignant, puisque vous comptez l'inscrire dans le Code civil.
L'objet social de l'entreprise qui constituera la modification de l'article 1833 du Code civil, c'est la consécration de cette notion d'intérêt social qui existe dans la jurisprudence et qui fait en sorte que la substance de l'entreprise ne se réduit pas à la production d'un profit. Donc, montrer que l'entreprise s'inscrit dans un contexte social, dans un contexte environnemental, qu'elle doit prendre en considération.
Le but de ce texte, c'est d'abord d'aider les entreprises qui exportent, ou ce sont toutes les entreprises PME, TPE, que vous souhaitez aider avec cette loi PACTE ?
Toutes les entreprises sont concernées, mais les PME françaises exportent moins que les PME de nos voisins. Donc il y a un effort particulier qui est fait à l'accompagnement des PME vers les marchés internationaux, qui a été annoncé par le Premier ministre au mois de février. Il s'agit de leur mettre à disposition un accompagnement au travers d'un guichet unique et de mettre en place des instruments qui sont façonnés pour répondre à leurs besoins. Par exemple, des instruments contractuels de crédit export pluriannuels.
Comment vous expliquez cette faiblesse des PME françaises à l'exportation par rapport à nos partenaires italiens ou allemands ?
Il y a peut-être un sujet culturel, donc on va aussi faire en sorte qu'il y ait plus de formation à l'anglais, d'accompagnement vers les marchés internationaux. Il y a aussi une dynamique collective qui joue peut-être davantage, en particulier en Allemagne, pour entraîner l'ensemble des écosystèmes d'une filière vers l'export.
Delphine Génie-Stéphane, concernant les salariés, est-ce que le texte, cette loi PACTE, favorise la participation et l'intéressement des salariés au bénéfice de l'entreprise ?
C'est un point essentiel de PACTE qui est de généraliser l'intéressement et la participation dans les PME. Aujourd'hui, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seuls 16% des salariés bénéficient d'un dispositif de ce type, ce qui est très peu. Donc il y a un gisement qui est considérable pour que la croissance et les profits des entreprises soient mieux partagés avec les salariés.
Mais là, il n'y a pas non plus de caractère contraignant pour le chef d'entreprise.
Non, un caractère fortement incitatif, puisque le forfait social est mis à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prélèvement sur ces sommes dédiées à l'intéressement et à la participation. Donc la participation pour les entreprises de moins de 50 et l'intéressement pour les entreprises de moins de 250. Aucun prélèvement, donc l'intégralité des sommes distribuées par l'entreprise vont aux salariés.
Delphine Génie-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, merci d'avoir été l'invitée de France Culture.
Bon,
ce
merci.
Soir.
Bonsoir.
Le temps demain sera globalement ensoleillé avec des températures en hausse dans le nord-ouest. La journée commencera sous les nuages et finira avec de belles éclaircies. Il y aura un petit risque orageux sur les Pyrénées et les Alpes. Les températures minimales de 12 à 22 degrés de la Manche à la Méditerranée. Les maximales grimpent de 16 à 28 degrés sur la moitié nord, de 28 à 33 au sud de la Loire. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.